à la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.
Heureuse de vous retrouver, chers auditeurs. Je suis certaine que vous commencez à ressembler aux premiers chrétiens qui vivaient près de la nature. Ô combien il est agréable de toucher la terre de la belle montagne libanaise et de la voir fleurir dans nos villages. Quelle louange au Créateur ! En effet, pendant le premier millénaire, on pensait qu'il y avait deux moyens de rencontrer Dieu, l'Écriture sainte et le grand livre de la nature. Souvent, on n'a gardé que le premier, malheureusement, à nos dépens. Les ermites des premiers siècles partageaient leur vie avec des créatures formidables, des ours, des lions et des chiens. Après saint Bernard de Clairvaux ou saint François d'Assise, à partir des XIIe et XIIIe siècles, la nature est devenue une ressource plutôt qu'un lieu de contemplation. Et alors, les conséquences néfastes annoncent la pollution moderne des corps et des esprits. Il faut retrouver cette amitié avec Dame Nature. Dieu n'aime pas qu'il y ait une rupture entre l'homme et la nature. Au contraire, il confie sa création à l'homme et à la femme qui a la responsabilité de l'aimer, cette terre-mère si généreuse, gratuitement. Un chrétien doit être ouvert à l'ensemble de la création. La vie animale, la vie végétale en fait partie comme nous, et c'est à nous de les protéger. Nous en sommes responsables, et Dieu nous demande d'aimer toute sa création. Je discutais avec un jeune Libanais qui me disait qu'il voulait oser des accouplements entre chèvre et âne. Je lui ai dit qu'il y a une ligne jaune à ne pas franchir, même pour les plantes. Dans le Deutéronome 22:10-11, on parle de mélange interdit. Il ne faut pas atteler un âne avec un bœuf, coudre de la laine sur du lin, etc. Dieu nous fait don de sa création pour nous réjouir, nous combler. Là aussi, on voit bien que tout est organisé par Dieu. Si l'on désorganise, et c'est transposable au niveau de l'être, on sera malheureux et malade. Est-ce que tout cela ne vient pas de notre désobéissance à Dieu? Si, on se prend pour Dieu et on devient capable du pire. C'est toujours la même chose et les mêmes mécanismes. On est chacun à un niveau d'évolution ou d'éveil différent. Il est urgent de former les enfants et les adolescents à ce sens de la beauté de la création et à son respect, les éduquer à leur vie de citoyens appartenant à la nation libanaise et à la patrie véritable qui est le royaume de Dieu qui commence sur la terre par les actes que l'on pose. Leur apprendre à prier, à donner la priorité au spirituel, à imiter les moines, les priants qui travaillent pour gagner la vie de la communauté et rien de plus. Si on a une vie de prière régulière, on ne court pas après l'argent ou après la dernière mode. La prière nous place au cœur du mystère sublime de la vie et nous met en relation vivante avec le maître de cette vie. La prière crée une sobriété joyeuse. Nous devons être attentifs à cette sobriété pour nourrir l'essentiel, car partout on ne s'aime plus, et le chaos en est la conséquence. Je le répète encore, c'est tout l'homme qui est toujours à sauver. Le bonheur est là, tout près. Ouvrons les yeux, arrêtons nos occupations, osons ne plus rien faire, écoutons le son du silence. Il nous enchantera et nous conduira au donateur, à Dieu. Il faut savoir s'arrêter et se taire. pour goûter à ces instants de paix. C'est vital. Le bruit et la vitesse génèrent des maladies subtiles. L'homme doit rester libre et maître de son instant de vie. Cet instant qui nous est donné par Dieu pour nous aimer les uns les autres et non pas pour être des boutiquiers. Méditons. Sachons créer en nous un espace de vie où Dieu peut se reposer. Je cite notre Saint-Père, le pape Benoît XVI, durant son dernier voyage aux États-Unis, où il a redonné le moral aux catholiques américains. Il a dit, je le cite, « La reconnaissance de la valeur transcendante de tout homme et de toute femme favorise la conversion du cœur, ce qui conduit à un engagement contre la violence, contre le terrorisme ou contre la guerre et la promotion de la justice et de la paix. Au Liban, confrontés que nous sommes aux guerres successives, nous devons comprendre mieux que tout le monde que tout passe, que tout glisse et fuit d'une fuite éternelle. Seul Dieu ne fuit pas. Seul le bien ne passe pas. Cette destinée du Liban, toujours en guerre, me pose question. Et j'ai appris ici à prier pour la paix de Dieu, car le monde aura toujours de la haine. Mais je prie pour les victimes, les enfants, les plus faibles sans défense, les bourreaux. Je prie pour Ben Laden, et je dis « Pitié, mon Dieu, pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. » Ben Laden prie, Bush prie, tous deux sont certains que Dieu les aide. Mais Dieu répond à chacun de la façon divine. Il ne va pas aider Ben Laden contre Bush. Dieu ne va pas l'aider à tuer. Mais un jour, peut-être, Dieu lui fera comprendre que la mort ne fait pas la vie. Et pour Bush, c'est la même chose. Nous sommes comme des enfants qui demandent à leur père l'impossible. Il les aidera dans le bien qu'ils veulent, mais pas dans le mal. Je les offre tous à Dieu pour qu'il les fasse entrer de plus en plus dans sa miséricorde. Chacun est certain que sa vision du monde ou du Liban est la meilleure, la seule juste, la seule vraie. Dieu est à côté de ce pauvre monsieur Émile Lahoud et je l'ai pris dans ma prière. Je l'ai pris dans mon cœur tant certains se sont moqués de lui. Lui ont craché dessus. C'est un manque de respect pour un homme. Toute personne, même le plus défiguré par le mal, a sa dignité. Dans les outrages qu'il a subis, le Christ est près de lui comme près de nous, comme auprès du larron sur la croix. Dieu n'arrête pas les bras du tueur. Les victimes au ciel chantent et elles sont déjà dans l'amour. Dieu a le puissant pouvoir de réparer ce que font les hommes, et c'est pour l'éternité. En Dieu et par Dieu, le salut existe. Heure après heure, le salut s'accomplit dans notre humanité. L'être humain monte toujours. La vie est plus forte que la mort. L'amour est plus fort que la mort. Et le triomphe est là, finalement. Il est certes encore invisible, mais il est là. Je cite sainte Élisabeth de la Trinité. Demeurez en moi. C'est le Verbe de Dieu qui exprime cette volonté. Demeurez en moi, non pour quelques instants, quelques heures qui doivent passer, mais demeurez d'une façon habituelle et permanente. Demeurez en moi, priez en moi, adorez en moi, aimez en moi, souffrez en moi, travaillez et agissez en moi. La Trinité, voilà notre demeure, notre chez-nous, la maison paternelle dont nous ne devons jamais sortir. Unissons-nous pour faire de nos journées une communion continuelle. Le matin, éveillons-nous dans l'amour. Tout le jour, livrons-nous à l'amour, c'est-à-dire en faisant la volonté du bon Dieu, sous son regard, avec lui, en lui et pour lui seul. Puis, quand vient le soir, après un dialogue d'amour qui n'a pas cessé en notre cœur, endormons-nous encore dans l'amour. Peut-être verrons-nous des fautes, des infidélités. Abandonnons-les à l'amour. C'est un feu qui consume. Et oui, avant de prier en chantant avec Laurence de la Croix, je veux maintenant vous faire écouter Catherine de Sienne. Je la cite. « Nous voyons encore aujourd'hui en vous, ô Vierge Marie, la force et la liberté de l'homme. Avant de descendre en votre sein, le Fils de Dieu s'adresse à votre liberté. Il attend à la porte de votre volonté. Il vous soumet le désir qu'il a d'habiter en vous. Il n'y serait jamais entré si vous ne lui aviez dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole ». N'est-ce pas là une grande preuve de la force et de la liberté de la volonté? Rien de bien ou de mal ne peut se faire sans elle. Le démon, ni aucune créature, ne la force au mal, si elle ne devient pas leur complice. Et personne ne peut la contraindre au bien si elle veut lui résister. La volonté de l'homme est donc libre. Comme il est bon de se nourrir et de nourrir notre foi au contact des saints. Ils nous aident. Avec eux, offrons au Père cet océan de malheur du monde tout autour de nous, tout ce qui arrive de terrible partout. Ayons confiance en Dieu, car rien n'arrive sur terre sans sa permission. Ne dramatisons rien. Acceptons et offrons. Et n'oublions pas que notre seul désir doit toujours être de consoler et réjouir Jésus et notre Père, qu'en nous voyant vivre, chacun où l'on est, Dieu sourit et soit heureux. Recevons l'Esprit Saint ensemble. Amen.
Souffle d'amour, souffle de vie. Souffle sur nos doutes, sur nos douleurs, sur nos peurs.
Souffle sur nos doutes, sur nos douleurs, sur nos peurs.
Souffle d'amour, embrase-nous, purifie-nous. Viens au secours de nos faiblesses, de nos paresses. Esprit de Dieu, libère-nous de nous.
Souffle d'amour, souffle de vie, souffle, souffle, souffle sur nos vies.
Souffle sur l'instant, sur le passé et l'avenir.
Souffle sur l'instant, sur le passé et l'avenir.
Souffle d'amour, éclaire-nous, visite-nous. Comble nos vies de ton esprit, de ta folie. Verbe de Dieu, libère-nous de
thank you.
en notre union fidèle au Père, en Jésus-Christ, nous recevons l'Esprit-Saint abondamment. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates 5, 22. Il est essentiel que nous soyons conscients de la présence et de l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Le Seigneur l'envoie dans nos cœurs afin de développer en nous une vie, une nature nouvelle, celle de Jésus-Christ, la nature de Dieu. Par notre conversion sincère à Dieu et la foi en Christ, nous devenons réellement une nouvelle créature, enfant de Dieu. Je cite saint Paul. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Nous devions bien comprendre que recevoir Christ est une expérience spirituelle réelle. C'est recevoir en soi un esprit nouveau, une vie nouvelle, la libération de tous nos liens et de toutes nos dépendances. C'est recevoir la vie de Dieu, de Christ, par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas nous qui allons, par nos propres forces, produire ce changement de vie. C'est Dieu, par son Esprit, qu'il fait habiter en nous, et c'est pour cela que cette vie nouvelle est appelée le fruit de l'Esprit. C'est la vie de l'Esprit de Dieu, la nature divine qui s'établit et qui va se développer en nous. Nous vivons alors par l'Esprit. Nous sommes conduits par l'Esprit. Nous connaissons des désirs différents, une mentalité différente. Tout devient nouveau et différent. Saint Paul le confirme, je le cite. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses qui sont devenues nouvelles. Le Saint-Esprit produit en nous de nouvelles affections. Saint Paul dit, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. C'est la vie et la paix. L'affection de la chair, en effet, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est vraiment la vie et la paix. L'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est justement de faire croître la vie, la nature, les sentiments du Christ en nous, et de faire disparaître ce qui est de l'ancienne nature, l'homme de la chair, l'homme du péché. Comprenons bien qu'il ne peut pas s'agir ici du fruit de notre travail, c'est-à-dire du résultat même de notre activité dans l'Église, mais de la nature de Christ se développant, dans nos vies comme le fruit d'une plante qui naît, se développe et vient à maturité. C'est à cela que nous sommes appelés jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. C'est confirmé par saint Paul, jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous, Éphésiens 4, 13, et Galates 4, 19, lorsque saint Paul l'apôtre dit « Soyez remplis de l'Esprit », il ne parle pas seulement des dons spirituels, mais aussi du fruit de l'Esprit. Je le cite, « Prenez donc garde de vous conduire comme des insensés, mais comme des sages, car les jours sont mauvais. Et c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Attachés au Seigneur Jésus-Christ, soumis au Saint-Esprit. Ce sont les deux conditions essentielles pour que l'Esprit du Christ produise son fruit en nous. Le premier point est défini dans l'enseignement de Jésus au chapitre 15 de l'Évangile de saint Jean. « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. » porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le fruit que nous portons est le résultat de notre communion avec le Seigneur Jésus. C'est la sainteté, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Pierre 1, 3, 4. Vous demandez souvent comment vivre sous la direction de l'Esprit. On marche sous la direction de l'Esprit-Saint en vivant fidèlement dans la confession, dans la repentance et la soumission à Dieu. Vivre dans la confession suppose que nous reconnaissons que la vie chrétienne n'est pas une vie parfaite. Aussi longtemps que nous vivons sur terre, il nous arrive de temps en temps de tomber dans le mal, dans le péché. Dès que notre esprit attire notre cœur sur un désir obsédant, désordonné, ou sur une intention persistante, une pensée, une attitude, une parole, une action qui est contraire à la volonté de Dieu révélée dans l'Évangile, nous devons immédiatement reconnaître notre faute et la confesser. Confesser un péché devant Dieu signifie être d'accord avec Dieu que ce que nous avons fait est mauvais et que nous le regrettons. Celui qui vit dans la confession ne perd pas le temps de Dieu et son temps dans les excuses ou les justifications. Il présente sa conscience blessée par sa faute à Dieu à travers le prêtre, son ministre, afin que Dieu le libère et lui permette de repartir dans la clarté et la cohérence de sa vie en Dieu. Que veut dire vivre dans la repentance? Si la confession signifie la reconnaissance, l'aveu et le regret de sa faute, la repentance veut dire l'abandon de la faute commise. Dans le Nouveau Testament, se repentir signifie tourner, changer de direction. Celui qui se repent de la faute commise l'abandonne par la grâce de Dieu reçue par l'absolution des mains du prêtre de Jésus-Christ. Si, malgré notre volonté d'abandonner notre péché, ce péché résiste, est obsédant et revient, il devient une forteresse démoniaque à être démolie par la prière d'autorité et de délivrance d'un prêtre exorciste. Et là, je rends hommage à mon père spirituel, Augustin Dupré-Latour, voué à ce ministère. Donc, vivre dans la soumission à Dieu veut dire, en vérité, la vie dans la puissance spirituelle n'est pas la vie voulue ou recherchée par les chrétiens charnels. Les chrétiens qui aiment le Seigneur réellement et vivent uniquement pour lui plaire ne reculent devant rien pour leur Dieu. Vivre dans la soumission à Dieu est un acte de volonté libre, posé uniquement par les chrétiens qui prennent Jésus et Dieu au sérieux. Les chrétiens qui vivent dans la soumission à Dieu sont ceux pour qui Jésus-Christ est le tout, l'excellence de leur vie. Comme l'a écrit saint Paul, je cite, « À cause de l'excellence de Jésus-Christ, je regarde toutes choses comme de la boue. » Vivre dans la soumission à Dieu signifie vivre selon la parole de Dieu, la Bible. Le chrétien qui est soumis à Dieu suit la Bible, pense, parle et agit comme l'enseigne l'Évangile. Vivre dans la soumission à Dieu, c'est se laisser transformer par l'Évangile qui renouvelle notre entendement, notre vision de Dieu, notre vision de nous-mêmes et des autres selon la Bible. Il est vraiment urgent de s'attacher au Christ et non à la religiosité, sinon c'est la mort spirituelle et le retour aux vomissures et ses conséquences, monotonie, insensibilité à la parole de Dieu et à l'Esprit-Saint, présence de lourdeur dans notre vie, de paresse, de négligence, de désir désordonné, de faiblesse spirituelle, voire de complet sommeil. Aucun chrétien n'est à l'abri de ce danger, d'où la veille et la vigilance. Un mort spirituel est une proie facile pour tout ennemi. il est exposé aux griffes du diable et peut même, ce qui est plus grave, rater le salut, c'est-à-dire la paix. Prenez conscience de votre état spirituel et luttez avec l'aide du Saint-Esprit afin de revenir à la vie et demeurer vivant en Jésus. Nous mangeons à la messe le pain de vie pour être des vivants et non des morts. Au nom de Jésus-Christ, mort, réveille-toi, sors de ton sommeil spirituel, rapproche-toi de la source de vie et reprends ta marche chrétienne où tu l'as laissée. Ne reste jamais entre le chaud et le froid, de peur d'être vomi par le Christ. Apocalypse 3:16. Retrouvons ensemble la fidélité. Marie, Marie exilée en Arabie ou ailleurs, soyez fidèles à vos femmes, à vos familles. Et femmes, retrouvez la fidélité à vos maris et à vos enfants, comme la très sainte Vierge Marie. Voilà, je le crois, l'indécence de l'appel de Dieu dans notre épreuve du Liban aujourd'hui. Entende qui a des oreilles. Amen.
À la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.